Qu'est-ce exactement qu'une âme humaine? De quoi est-elle faite? Est-elle mortelle ou immortelle? De tout temps, ces mêmes questions se sont faites entendre et le livre des livres, la Bible, contient-elle des réponses? Dans ce programme, Pierre et Thomas examineront ces questions avec leur esprit habituel de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ce programme fait partie d'une série spéciale où Pierre et Thomas examineront les divers livres de la Bible dans le but de faire mieux connaître les Saintes Écritures. Ces discussions vous sont présentées par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore.
La semaine dernière, nous avons considéré la Bible en général et noté le fait qu'elle contient un témoignage harmonieux au sujet des desseins de Dieu dans la création de l'homme. Elle dit comment, malgré leur chute dans le péché, les hommes seront rendus à la vie et pourront retrouver le paradis perdu grâce à Dieu. Les dernières pages de la Bible parlent de la restauration harmonieuse de l'humanité.
Et Pierre, la Bible fait souvent allusion à Jésus comme étant celui que Dieu enverra d'abord pour sauver Adam et ses enfants de la mort, et puis les rétablira à la vie dans le paradis retrouvé.
Oui, et plus nous étudions la Bible, plus nous comprenons combien son témoignage est vraiment merveilleux et harmonieux. Tu sais, naturellement, Thomas, que le premier livre de la Bible s'appelle la Genèse.
Oui, je le sais. Mais il y a des millions de gens qui entendent nos émissions et qui ne le savent pas. Le mot « Genèse » veut dire « origine ». Aussi, dans les premiers chapitres de ce premier livre de la Bible, nous trouvons le récit de la création.
Le tout premier chapitre contient un récit extrêmement bref de l'œuvre de la création de Dieu, en tant qu'il se rapporte particulièrement à la planète Terre. Il n'est pas dans son intention de donner une révélation complète et scientifique de tous les détails de la création. Et un tel récit détaillé n'est pas nécessaire pour le but à atteindre. La Bible fait connaître l'origine de l'homme, son péché et la mort, mais nous donne aussi l'assurance que Dieu a un plan de rédemption.
Cependant, Pierre, à mon avis, le bref récit de la création qui nous est donné dans la Genèse est pleinement en harmonie avec les faits scientifiques. Les jours de la création, par exemple, ne sont pas des périodes de 24 heures, mais de longues périodes de temps ayant chacune un commencement obscur appelé le soir et se terminant par un matin, symbole de lumière et d'activité. Je crois que c'est au matin du sixième jour que l'homme fut créé.
C'est juste. Le récit se trouve au verset 26, 27 et 29. Je crois que tu ferais bien de lire ces versets, Thomas.
Volontiers, Pierre. Voici. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Thomas, dans ces trois versets du premier chapitre de la Bible, nous avons une brève affirmation du dessein divin de la création de l'homme. Il devait multiplier et remplir la terre et dominer sur la terre. Il était une créature pour la terre, adaptée de toute façon à vivre sur la terre. Et la terre devait être son royaume, son domaine.
Mais Pierre, le récit dit que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Cela ne veut-il pas dire qu'il était de quelque façon une créature spirituelle?
Pas du tout, Thomas. Il ne fait que décrire la supériorité de l'homme sur les animaux inférieurs. L'image divine lui fut donnée pour qu'il puisse raisonner, connaître le bien et le mal, avoir une conscience et le désir de vénérer son Créateur.
Eh bien, Pierre, puisque le dessein du Créateur en créant l'homme est si clairement indiqué dans le premier chapitre de la Bible, il me semble qu'il devrait nous servir de guide dans notre étude de toute la Bible.
C'est exact, Thomas. Le Créateur ne change jamais ses plans, et le témoignage de sa parole écrite contient d'un bout à l'autre son dessein, qui est toujours que la terre soit pour l'habitation de ses créatures humaines et qu'elle domine sur toute la terre.
En ce cas, nous n'avons pas lieu de nous mettre en peine concernant la possibilité d'une destruction de la terre par les bombes à hydrogène. Mais Pierre, dans le deuxième chapitre de la Genèse, nous avons un autre récit de la création. L'homme du premier chapitre est-il le même que celui du second?
Oui, Thomas. Le premier chapitre de la Genèse est un récit très bref de tout le travail de la création de la terre et de l'homme à qui il fut donné autorité sur elle. Le second chapitre de la Genèse présente les détails de la création de l'homme et les lois divines par lesquelles il devait être gouverné. Le verset 7 du second chapitre explique avec force détail comment l'homme fut créé. Veux-tu le lire, Thomas?
Certainement. Le verset 7 dit « Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. » Et l'homme devint une âme vivante. Le Seigneur nous dit tout ce qui est utile que nous sachions. Alors Pierre, c'est la première fois qu'il ait fait mention de l'âme dans la Bible.
En effet, Thomas. Et je trouve que c'est très intéressant de découvrir comment l'âme fut créée. Il nous informe à ce sujet de ce qui compose l'âme. Il nous donne aussi une direction pour continuer l'étude de la Bible. Toutes les fois que nous trouvons le mot « âme » dans la Bible, nous saurons qu'il a la même signification que lorsqu'il fut cité pour la première fois. Ainsi, ces premiers chapitres de la Bible ont mis au point un sujet très important de vérité pour nous.
Mais Pierre, comment interpréter au juste ce verset du second chapitre de la Genèse pour définir ce qu'est une âme?
Eh bien, tout d'abord, il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ce que nous savons maintenant, scientifiquement confirmé. Tous les éléments chimiques qui forment l'organisme humain se trouvent dans la terre.
C'est pour cela que nous parlons de la terre comme de notre mère.
Justement. Après que l'homme fut créé, le Seigneur souffla dans ses narines la respiration de vie. Le récit précise qu'alors l'homme devint une âme vivante.
Pierre, l'expression « âme vivante » veut-elle dire « âme immortelle » ?
Non, Thomas. À mesure que nous examinerons les différents livres de la Bible, nous verrons que l'expression « âme immortelle » ne se trouve nulle part dans le livre sacré. Le mot « âme » au singulier ou au pluriel apparaît dans la Bible plus de 800 fois, mais jamais il n'est dit que l'âme est immortelle. Et la Bible n'indique d'aucune façon que les âmes humaines ne meurent pas, au contraire.
Pierre, ceci est très intéressant et très révélateur. Mais pour en revenir au récit qui précise comment Dieu créa la première âme humaine, que signifie l'expression « l'homme devint une âme vivante » ?
Cela veut dire, Thomas, que Dieu n'a pas placé en Adam quelque chose de séparé qui pourrait vivre à part quand le corps d'Adam serait rendu à la poussière dont il a été tiré. Mais il est dit que l'homme devint une âme.
Oui, je sais, mais qu'est-ce que cela veut dire ?
Eh bien, reprenons le récit. D'abord, l'organisme humain fut formé. Mais il n'avait pas de vie. Il avait un cerveau parfait, des poumons parfaits, un cœur parfait. Tout y était parfait et prêt à vivre. Mais le corps restait inerte.
Et alors Dieu mit une âme dans cet organisme parfait, est-ce là?
Non, Thomas, ce n'est pas ce que dit ce récit. Le texte dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam une respiration de vie.
Mais qu'est-ce donc que cette respiration de vie?
C'est le souffle qui, dans la vie, donne le mouvement à l'organisme. C'est l'air, ou le souffle, qui donne la vie à tous les animaux qui respirent. Comme nous le savons, l'oxygène de l'air pénètre dans le sang par les poumons, et ceci, par la providence divine, donne la vie. Quand Dieu fit pénétrer le souffle dans l'organisme parfait d'Adam, ce qui était sans vie s'anima aussitôt et devint une âme vivante. C'est l'union de ces deux éléments qui produit l'âme vivante ou l'être vivant.
Eh bien, cela éclaircit certainement le mystère de ce qu'est exactement une âme humaine. Et parlant des âmes humaines, cela m'amène à une autre question. Serait-il juste de parler des animaux inférieurs comme étant aussi des âmes?
La Bible en parle de cette manière. Au verset 30 du premier chapitre de la Genèse, nous lisons « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. » Cette expression porte comme traduction originale « âme vivante ». Donc, les traducteurs de la Bible avaient reconnu que le souffle de vie et âme ne pouvait se limiter à l'homme, mais s'appliquait également aux animaux inférieurs.
Dans ce cas, Pierre, quelle est la différence entre l'homme et les animaux?
Le Créateur marque la différence quand, dans le premier chapitre de la Genèse, il nous informe qu'il créa l'homme à son image. Ceci, comme je l'ai déjà expliqué, veut dire que l'homme fut doué de la capacité de raisonnement, du discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal, de la possession d'une conscience et du besoin de vénérer son Créateur.
Eh bien, cela ne fait-il pas supposer que quelque chose de différent doit avoir été placé dans l'organisme humain, quelque chose qui n'a pas été donné aux animaux inférieurs?
Non, Thomas. La différence est dans l'organisme. Le même souffle de vie anime aussi bien la moindre que la plus haute espèce animale, ainsi que l'homme. Ce n'est pas le souffle de vie qui fait la différence, mais l'organisme que le souffle de vie anime. Le même soleil peut briller sur un diamant qui resplendit en réfléchissant les rayons du soleil, alors que le verre reste terne. C'est ainsi que Dieu a doté l'homme d'un organisme plus délicat. Lorsque celui-ci est animé par le souffle de vie, ses facultés sont agissantes et manifestent son caractère, sa raison et sa compréhension.
Pierre, c'est merveilleux. Il n'est pas surprenant que Dieu aime cette créature humaine et qu'il ait promis de rendre à l'homme la vie et le paradis perdu. D'ailleurs, l'article qui paraît dans la revue Aurore, sous le titre « De la création de l'homme et sa destinée finale », contient bien d'autres informations de ce genre. Mes amis, ne manquez pas de demander un exemplaire de cet article. Beaucoup de personnes aimeraient mieux connaître la Bible, savoir comment l'étudier, pour bien la comprendre et y puiser les leçons importantes et en profiter. Cet article vous donnera une meilleure connaissance de la Bible et vous aidera à la comprendre. Qu'est-ce que l'âme? Quelle est la punition du péché? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que l'enfer de la Bible et où se trouve-t-il? Toutes ces vérités sont établies dans la Genèse et discutées dans l'article « La création de l'homme et sa destinée finale ». Demandez le petit livre « Destinée ». Simplement, demandez « Destinée ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette émission vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.